是真的，怎么去做？
Merci. Ah, tu as beaucoup de projets qui visent à l'inclusion. storm yet, but again, I have to say, this morning, I got to stay gone, got to stay ready. And as you say, on August, as you go, just say that he's on the ready, start the bomb, so what? The three classes of the ready, and this one is. This is the city of Jesus. La vision d'Angèle est déjà. Mais si elle est injuste, il faut chercher plutôt l'extraction du Jésus humain de tous les internautes. Donc, je trouve que ce discours de la vision numérique est erroné. Il faut d'abord chercher une société numérique juste et puis nous pourrons inviter des autres à y participer. Mais quelles sont les menaces à la liberté des internautes, les menaces à la société numérique juste? Je vais traiter neuf menaces dans cette petite conférence. La première est la surveillance. La technologie numérique facilite un niveau de surveillance qui aurait été la rêve de Staline. Mais Staline ne pouvait pas le faire. Bien qu'il l'ait essayé, mais sans la technologie numérique, il était impossible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Si nous faisons quelque chose par des ordinateurs peuvent prendre note de tout ce que nous faisons et garder ces notes à jamais dans un catalogue sous le nom ou le numéro de chacun. Et les beaucoup de pays ont imposé des numéros à chacun, ce que je trouve dangereux, parce que les cartes nationales d'identité facilitent la surveillance. Mais les entreprises aussi font de la surveillance, comme par exemple Facebook, mais beaucoup d'autres. Souvent, la surveillance est faite par nos propres ordinateurs. Surtout s'il y a des logiciels pas libres dans l'ordinateur, les programmes libres contiennent souvent des fonctionnalités malveillantes, y compris les fonctionnalités de surveiller les utilisateurs et transmettre des données sur lui à quelques serveurs. Et nous avons trouvé des fonctionnalités spécifiques de surveillance dans Windows, dans les Python, dans Flash Player, dans le Kindle d'Amazon, dans la plupart de téléphones et portables. Donc c'est assez commun. Mais une défense contre la surveillance faite à travers ton ordinateur est utilisée uniquement du logiciel libre. Parce que le logiciel libre est sous le contrôle des utilisateurs. S'il ne veut pas être surveillé, il faut changer le programme. Et dans la communauté d'utilisateurs d'un programme libre, il y en aura assez qui ne veut pas être surveillé. Donc, c'est un programme. C'est presque sûr que les autres le feront et tu ne devras pas travailler. Parce qu'il suffit d'éliminer cette fonctionnalité de l'alliance une fois pour tout le monde. Mais ce n'est pas la seule manière de nous surveiller par la technologie. La surveillance se fait aussi dans les sites web que nous visitons. Beaucoup envoient les données de chaque visiteur à Google pour le service Google Analytics qui fait la statistique sur toutes les visites. Mais c'est-à-dire que le site donne à Google toutes les données sur les visiteurs. je crois qu'il ne pourra pas le faire, mais ils le font. Mais aussi, il a la surveillance sur les systèmes qui ne nous appartiennent pas, mais que nous devons utiliser les services. Par exemple, les fournisseurs d'accès Internet sont obligés en Europe de garder pour une période toutes les données sur les communications des utilisateurs avec qui ils se communiquent. Et ces données doivent être gardées assez longtemps, mais peuvent être gardées beaucoup plus longtemps. Qui sait? Et les entreprises de téléphonie gardent tous les appels de chaque utilisateur à qui il envoie des messages, mais aussi où il va. Tous les quelques minutes, le téléphone dit où il est. Quelqu'un en Allemagne a demandé la liste des données sur lui que l'entreprise a eu. Et l'entreprise ne voulait pas le délivrer, mais enfin, il devait le faire. Il a reçu juste 30 000 positions interrogatives pour 6 mois. C'est-à-dire plus ou moins plus de 200 par jour. C'était plus ou moins 36 000. Donc c'était plus ou moins 200 par jour. C'est assez souvent. Et pour comprendre la vie des quelqu'un, seulement pour cette liste. Et c'est vrai que le téléphone participe dans cette surveillance. Il transmet sa position GPS. Et avec uniquement de l'option libre dans le téléphone, nous pourrions éliminer cette fonctionnalité. Mais l'entreprise est capable de localiser le téléphone même sans sa participation, par triangulation du signal entre plusieurs tours, donc, et ils mettent toujours plus de tours, donc ils ont toujours plus d'exactitude dans l'organisation du téléphone, même sans son coopération. Et l'utilisateur n'a pas de moyen de vérifier. Mais il y a aussi des systèmes de surveillance qui n'ont rien à faire avec nos activités. Par exemple, en Angleterre, ils ont mis des caméras sur les routes pour reconnaître les matriculés des autos, de tous les autos, et ils suivent tous les mouvements des voitures dans le pays. En temps réel, ils sont en train de le faire de manière informelle aux États-Unis aussi. Ils mettent pour quelques prétextes une caméra ici, une caméra là, et avec des milliers de caméras, enfin, ça sonne un système de surveillance complète. Que faire? La seule manière d'éviter la surveillance passée à travers de nos ordinateurs et à l'action politique. Mais ce qu'il propose, même ceux qui essaient de limiter la surveillance, proposent de limiter l'utilisation des données une fois recueillies. Et ce ne suffit pas. Les données recueillies s'abusent. C'est normal, c'est presque inévitable. Mais même si nous supposons que nous pouvons éviter que les policiers abusent les données pour ces buts individuels, comment 이제 주택의 사업해야 될 부분이 Et même si l'utilisation des données est mise aux limites, comme le besoin d'un ordre du tribunal, c'est toujours augmenter l'ordre dans le niveau général de surveillance. Si nous ne croyons pas que le niveau intérieur général de surveillance était une manque, évidemment, c'est au moins un faux. Il faut limiter la collection des données, pas seulement leur utilisation. Parce que cette surveillance est très dangereuse pour la démocratie. Parce que ces données servent surtout pour attraper les dissidents, souvent appelés terroristes. C'est la nouvelle vague, mais c'est aussi l'ancienne vague d'accuser les dissidents d'être terroristes, même aux États-Unis, je crois. Et comme ça, il y a toujours des exceptions dans les limitations d'utilisation des données pour chasser les terroristes, c'est-à-dire les dissidents. Donc il faut limiter strictement la collection des données. Par exemple, et je peux vous donner pour vous des exemples, mais en Angleterre, ils ont utilisé leur système de surveillance des mouvements des voitures pour arrêter des dissidents supposés en route à une manifestation, pour les arrêter avant d'y arriver, avant de remonter. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Une manifestation, la démocratie. C'est-à-dire, c'est un système pour saboter la démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait le faire? Parce que c'est un gouvernement pour les entreprises qui s'imposent aux eux. Ce n'est pas vraiment la démocratie. Cet État a toujours la forme de la démocratie, mais pas la substance. Donc, son but est de maintenir le pouvoir des entreprises et de réprimer les dissidents. Il faut résister à la surveillance. Autre menace est la liberté dans la société numérique et la censure. La censure n'est pas nulle. La censure a existé depuis des siècles ou des millénaires. Mais il y a 5 ans, nous pensions que l'Internet était trop difficile à censurer, qu'il serait impossible. Et maintenant, nous voyons que c'est bien possible si un État veut payer le prix. Et il y a beaucoup qui payent le prix. Et pas seulement les États évidemment de dictature comme la Chine ou l'Iran, mais vraiment, est-ce qu'un tel État fait beaucoup de mauvaises choses. Et même les États qui se présentent comme démocratiques ont la censure de l'Internet. Par exemple, en Danemark, ils ont introduit il y a plusieurs années un système de comment dit-on Nicolas Rien. Comment dit-on Une liste secrète, mais quelqu'un a obtenu la liste et Wikileaks a publié. Danas, donc bloquer cette page. C'est-à-dire que tout le monde pouvait savoir à quelle page on a été bloqué en Danas, sauf les victimes. Mais l'imposition de filtration ou de blocage dans l'Internet existe dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Italie, en Espagne, et je suppose que est-ce que c'est le... en France aussi, en Belgique, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire oui? Ah, est-ce que ça veut dire que vous dire que vous êtes
détaillé?
Ah, donc, oui, là, la censure de l'Internet en Belgique. Il y a d'autres formes de censure. Il y a la censure de lien. En Australie, il n'y a pas de filtre général de l'accès au site à l'étranger, mais il y a le blocage, il y a l'interdiction de lien. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme des internautes de l'Electronic Frontier Australia a été sanctionné d'une peine de 11 000 dollars par jour pour avoir un lien à un site étranger politique. C'est un site contre l'avortement. Un site terroriste. Mais il a été censuré. Et juste pour le droit à l'avortement. Très fort pour ce droit, mais je suis contre la censure de n'importe quel individu. Mais, évidemment, en Europe, il y a aussi d'autres censures. Les censures des insultes, la censure des opinions. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a des opinions sur l'histoire sont censurées. Mais, en Inde, beaucoup est censuré. Les sites web en Inde peuvent être fermés par ordre de fonctionnaires sans procès pour beaucoup de prétextes, comme offenser la condition de sexe, c'est-à-dire critiquer de n'importe quelle manière. Et beaucoup d'autres. En Turquie, il y a 3 ans, l'État a annoncé que chaque internaute turc devra choisir entre la censure, et plus de censure, et plus de censure encore, et plus encore, en 4 niveaux de censure, mais sans l'option de l'accès au vrai internet. Que faire? Il faut évidemment lutter. Mais une chose intéressante est que dans l'Internet, la censure exige la surveillance. Comment bloquer la transmission de quelqu'un sans savoir si quelqu'un transmet cette œuvre? Donc, pour vraiment censurer, il faut surveiller. Et pour noter que des entreprises occidentales ont participé dans le développement des systèmes que ces pays utilisent pour sa surveillance et sa censure. Mais autre menace à la liberté numérique est dans les formats conçus pour restreindre leurs utilisateurs. Il y a des formats secrets. Par exemple, beaucoup d'applications sauvegardent les données de l'utilisateur dans un format secret pour éviter l'interopérabilité avec d'autres programmes. Pour que l'utilisateur ne puisse utiliser ces données hors de ce programme. è che nasce le scienze della ricerca di Pasteur, cioè per dire al nostro programma libero, o che forma nasce? Perché le consulte si trovano documenti le forma, si capisce mettere le supporti, si forma il nostro altro programma libero, e che cosa riesce a fare? E se non fa copie di codice, può dire, può comporre la forma e crea l'altro codice. Forma che se è così, c'è la logica lì. A se come c'è il ricadere. Ne esibisce la forma che se è così, con la diffusione del ricadere, può costruire il ricadere également. En ce cas, il s'appelle les menaces numériques. Et beaucoup de programmes utilisateurs très utilisés portent des menaces numériques à l'utilisateur. Par exemple, Windows, Macos, les iThings, Flash Player, le Kindle d'Amazon. E che serve dei telefoni portati, come si fa, gli altri programmi di una delle nuove società. Donc c'è la seconda, come problema. Donc j'ai présenté deux sortes de fonctionnalité multi-voix. La surveillance et le non-binaire. Les fonctionnalités pour restreindre l'utilisateur. Il y a aussi les formats pas secrets mais codetés. Par exemple, les formats MP sont codetés. Et le problème, ils ne sont pas secrets. Donc, il y a des logiciels libres qui parlent de gérer ces formats. Mais, les programmes sont interdits, donc ils ont payé par les codetés. Donc les distributeurs des systèmes qui jouent Linux, beaucoup n'osent pas inscrire ce programme parce qu'ils ont peur d'avoir un procès. Donc ils n'offrent rien pour gérer ces formats. Ou ils offrent des programmateurs pour gérer ces formats. Donc les utilisateurs ont besoin de ces formats, parce que beaucoup distribuent des œuvres dans ces formats. Et si l'utilisateur reçoit une copie de GNU et Linux sans support pour ce format, il dit ce système ne marche pas bien, ne sert pas, parce qu'il ne vient pas avec le support pour ce format MP3 ou quoi que ce soit. Mais si le système vient avec le logiciel privateur, il n'est pas complètement écrit. Il y a donc une portion qui n'est pas écrite. Et d'une manière ou d'autre, c'est un problème. C'est pour ça que je ne fais pas de fichier MP3. Jamais. J'ai du logiciel pour jouer un fichier MP3, mais je ne l'essaye pas. Parce que je veux pas ajouter à la somme de fichiers MP3 dans le monde, parce que chaque fichier MP3 pressionne les gens à exiger le support pour MP3 et augmente le problème de l'absence de logiciels libres pour le faire dans beaucoup de distributions de Linux. Donc c'est une combinaison de deux facteurs qui crée ce problème, c'est l'utilisation du format généralement dans la société, dans un facteur, et le brevet et le danger d'avoir une procès sur le brevet, un autre facteur qui rend dangereux ces formats. Il y a aussi le cas unique de Flash qui n'est pas secret. Oui, la fonctionnalité de la non-numérique, le reste n'est pas secret, mais Adobe l'avait changé on the cloud, Kumulana 2, Kumulana 2, and Kumulana 4 for la dernière version. Nous avons du support pour la version 8, mais l'autre, c'est la version 10. Que faire? Il faut ne pas suivre des œuvres dans le cache. Il faut ne pas mettre de cache dans les sites web. Et il faut te plaindre si tu visites un site avec cache. Il faut te plaindre à la gestion du site. Un autre ménage est dans les programmes utilisateurs, c'est-à-dire les programmes qui ne respectent pas la liberté de l'utilisateur. Chez le logiciel, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle de ses utilisateurs. Le premier cas, c'est le logiciel libre. Parce que pour avoir le contrôle du programme, les utilisateurs ont besoin de plusieurs libertés. Et ces libertés essentielles définissent le logiciel libre, ont le critère pour un programme libre. Mais, et si les utilisateurs ont ces libertés, ils ont le contrôle individuel et collectif. C'est-à-dire que chaque utilisateur est libre de changer le programme, mais n'importe quel groupe d'utilisateurs peut aussi maintenir sa propre version et le changer pour faire ce qu'il veut. Mais si les utilisateurs ne disposent pas des libertés essentielles, c'est le programme, donc ils n'ont pas le contrôle du programme, donc c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Mais le propriétaire du programme a toujours le contrôle du programme. Et à travers de ce programme, il exerce du pouvoir sur les utilisateurs, un pouvoir injuste. Donc, nous l'appelons un programme utilisateur, parce qu'il prive de leur liberté aux utilisateurs. C'est un système de pouvoir injuste, un système de colonisation numérique. Et c'est par conséquent que beaucoup de programmes utilisateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes. J'ai déjà mentionné les fonctionnalités de surveillance et les mêmes numériques. Il y a aussi les portes dérobées qui acceptent des commandes de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose à l'utilisateur sans lui demander d'autorisation pour le faire. Comme ça, le programme devient l'ennemi actif de son utilisateur. Et des portes dérobées ont été trouvées dans Windows, dans les iPhones, dans le Kindle et dans la grande majorité des téléphones portables. Dans quelques cas, les portes dérobées vont jusqu'à permettre l'installation à distance des changements de logiciels. Ça sort dans Windows. Il y a une porte dérobée par laquelle Microsoft peut imposer n'importe quel changement de logiciel sans l'autorisation de l'utilisateur, du propriétaire théorique de l'ordinateur. J'ai dit théorique parce que dans la pratique, Windows s'en a emparé complètement de cet ordinateur, Microsoft s'en a emparé complètement si Windows existe dans l'ordinateur. Les portes dérobées, cette porte dérobée est universelle. Parce que n'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui peut être imposée par rapport à humain. Mais les portes dérobées universelles existent aussi dans les téléphones portables. Elle a été utilisée par les convertir en necessity statement. Qui transmet toute la conversation dans la salle. Pas besoin de parler dans le micro. Parce que même dans la poche, tu écoutes et transmets. Tout. Donc, pourquoi est-ce que les personnes de Marion sont si connues dans les programmes utilisateurs? Parce que le propriétaire reconnaît son pouvoir sur l'utilisateur. Et donc, il ressent la tentation de l'abuser. Et si c'est une corporation, c'est-à-dire psychopathe, qu'est-ce qu'il fera? Il utilisera son pouvoir pour gagner quelque avantage sur les utilisateurs, pour vendre quelque chose, tout pouvoir, tout avantage. Donc il cherche toujours tout pouvoir dont il peut profiter. Mais chez le logiciel libre, il n'a presque jamais de conseil d'évasion parce que les utilisateurs ont le contrôle et les utilisateurs ne gèrent pas les conseils d'évasion. Et avec le logiciel libre, les utilisateurs reçoivent ce qu'ils veulent. Si quelqu'un mettait une conseil d'évasion dans un programme libre, n'importe quel utilisateur qui s'est programmé pourrait le corriger. Et des utilisateurs qui savent programmer également. Et par exemple, ils étudient le code source pour ajouter quelques fonctionnalités ou corriger quelques erreurs. Et comme ça, ils ont la possibilité de reconnaître la fonctionnalité marquée dans le code. Et s'ils reconnaissent une fonctionnalité marquée, qu'est-ce qu'ils font? Ils le découvrent. Ils annoncent. Le scandale. Regardez ce que j'ai trouvé dans ce programme et tous les programmeurs peuvent vérifier que c'est vrai s'ils l'avaient introduit. Donc, pas de tentation sur le résultat. Et c'est comme ça que les conseils des malveillants sont très rares chez le logiciel libre et très communs chez le logiciel utilisateur. Mais quelles sont les libertés nécessaires pour les utilisateurs et le contrôle du programme? La liberté zéro est celle d'éditer le programme comme tu veux. La liberté 1 et celle d'éditer le ressource programme et de changer pour qu'il passe à l'informatique comme tu veux. Et cette liberté nous donne le contrôle individuel à chaque utilisateur. Mais le contrôle individuel ne suffit pas, donc il faut les autres deux libertés essentielles. La liberté numéro 2 et la liberté d'aider les autres, de restituer les copies et cartes aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est celle de contribuer à la communauté, c'est-à-dire de distribuer les copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec ces deux libertés, n'importe quel groupe d'utilisateurs peut ensemble maintenir sa version du programme. Pour son utilisation, son propre utilisation ou pour l'utilisation de tout le monde suivant. Pour être adéquat, ces libertés doivent s'appliquer à toutes les activités de la vie, y compris le commerce. Parce que le commerce est une activité légitime. Et ce n'est pas juste que l'informatique d'une entreprise soit sous le contrôle, sous le pouvoir d'autres entreprises. Il faut réglementer le commerce, il faut réglementer les entreprises pour qu'elles ne puissent pas abuser le reste de la société, may show up the shoulders. Share the most strong brothers, and we say the most strong brothers. If that other hour, they cut the on stone on the peace. Only that liberation of war, which is that he could be the one. May accumulate of that part. La liberté de Rome veut dire que si tu peux exécuter le programme comme tu veux, mais si tu es masochiste, tu peux l'exécuter quand tu ne veux pas. Tu as aussi l'option de ne pas l'exécuter. Avec la liberté, un, tu peux exécuter et changer le nom sur ce programme, mais ce n'est jamais obligatoire. Et le cas visuel est de recevoir le programme et de l'utiliser sans faire les choses. Parce que personne n'a pas de temps et tout le monde adore ce travail à faire. Quand tu lis le code source quand tu veux, pour cette raison, avec la liberté de ce que tu as des copies et les distribuer, mais dans aucun cas il n'est obligatoire de le faire. Nous n'imposons pas que tu coopères avec quelqu'un, mais tu dois être libre de le faire quand tu veux. Et par la liberté proche, tu dois faire une version modifiée, tu peux en distribuer les copies, mais c'est pas tout à fait, tu peux l'utiliser dans ta vie privée sans distribuer les copies, jamais, si c'est ta préférence. En ce cas, ta version est un programme privé. Pas tout à l'heure, privé est autre chose. Un programme privé, tu utilises dans ta vie privée. Si tu as des cartes de liberté, ce programme est libre. Ta copie de ce programme est libre. Un programme privateur se distribue de manière à priver les autres de leur liberté. Et voici l'injustice. J'ai lancé le mouvement de logiciel libre à l'année 83. J'ai commencé à 84 le développement du système d'exploitation censé être complètement de logiciel libre. C'est-à-dire chaque programme serait libre. Le système entier n'aurait aucun ni une seule ligne de code privateur. C'est le GNU. Et le système s'appelle GNU. GNU. Qui veut dire GNU Mass Unix. C'est un acronyme de personnes. Et nous avons travaillé beaucoup d'années dans le développement des centaines de composants nécessaires pour avoir un système semblable à Unix. Unix était privateur, mais avait beaucoup d'avantages techniques. Donc j'ai suivi la même conception technique, mais il fallait remplacer chaque composant parce que nous ne pouvions pas utiliser les composants Unix qui étaient privateurs. À l'année 92, nous avions presque tout le système. Il manquait un seul composant important et essentiel. C'était le noyau. Le noyau du système est le composant qui fournit les ressources à la machine aux autres programmes. Et nous avions commencé le développement du noyau à l'année 90, mais ce noyau, le cœur, ça veut dire tout beau, ne marche pas bien. Et il fallait 6 ans pour avoir une version initiale. Mais, c'est dommage, mais ce n'était pas un détail parce que ne fallait pas l'apprendre. À l'année 92, M. Torres, 下天也有些人来游，啊，去在这儿做那里打扫办公，啊，啊，这是给这个里边的，啊，这里看看路是给他自己或者有书运的一双是视力啊，在这公司一双是以前的孩子的，有这些人的病，啊，现在。军队的上里头其实是这样的说的，但是谁控制上啊谁在管军队，很可怜。第二个是里上里头发生的，那个里上这也是在什么在里上里头，也不知道是不是从军队的话，军官和 slash licenses 提供。在那上班的话是有人力上是一块的，一种是有新的人力上是有新版的。还有是在 combination of the system has completely failed, in my views, a data system completely evil. 可能听的话也是不适应的，是这样的一些et il est différent d'interfait avec ce système. Mais la conclusion, ce sont combinés ce noyau Linux avec les contrôleurs qui, à un moment donné d'être le système de nous, ont appelé la combinaison comme un système Linux qui n'était pas juste enfermé. Et c'est comme ça que des millions utilisent le système de nous, ils ne le savent pas.Quelle est l'information? Quand vous parlez de ce système, quelle est l'information? Donnez-nous la reconnaissance égale. Et pourquoi nous et pas nous, à nous? Parce que nous et un mot, à d'autres significations, sans autre signification qui n'est pas un jeu de mots.Donc j'ai choisi nous parce que c'est le mot, c'est le nom de cet animal qui arrive en Afrique. Et c'est aussi le mot le plus chargé de nous dans la langue anglaise. Parce qu'il s'utilise dans beaucoup de jeux de mots. Parce que selon le dictionnaire, le G est nul et le mot se prononce nul. C'est-à-dire nouveau.Donc chaque fois que tu veux écrire le mot « nous », tu peux l'écrire « j'ai un nu » et « c'est un jeu de mots ». Peut-être pas très bien, mais il y en a beaucoup. Donc, le système « nous » rend possible l'utilisation d'un ordinateur sans logiciel privateur, mais seulement si nous avons des drivers,pour les périphériques de l'ordinateur. Aujourd'hui, nous avons un problème que nous n'avions jamais à l'année 84. C'est-à-dire que le mot d'emploi peut être secret. Ils vendent le produit, mais ils ne disent pas comment l'utiliser. En lieu de se le dire, ils vont créer et ils vont faireUn programme qui va te reposer. Et c'est la seule manière d'utiliser le produit. C'est injuste, ça doit être illégal. Mais c'est assez commun. Donc, pour résoudre ce problème, il faut de la génie à l'envers. Pour comprendre le mot d'emploi du produit et pour ensuite.Et créer un programme libre pour le gérer. Donc, si tu veux construire quelque chose de très important, par le travail technique, fais la génie à l'inverse. C'est très important. Mais, aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, des ordinateurs plus grands qui ne permettent pas l'installation de logiciels modifiés. beaucoup de produits envoyés sont chinois. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une version d'Android préinstallée. Et l'utilisateur peut obtenir une version libre d'Android, mais ne peut pas installer cette version dans son ordinateur. En ce cas, le code source peut être libre, mais l'exécutable est privateur. Parce que ce code source, l'utilisateur peut dispose avec ce code source des capteurs de paix et peut le changer, peut trouver des copies, même à changer. Mais ce qu'il ne peut pas faire est d'utiliser sa propre version dans son propre ordinateur. En ce cas, l'exécutable dans l'ordinateur n'est pas libre, bien que son code source soit libre. Tu as entendu parler du terme open source. Pourquoi est-ce qu'il dit ça en lieu de logiciel libre? Parce qu'il ne veut pas dire libre. Il ne veut pas poser la question de liberté, poser la question de justice. Donc ils ont cherché une manière de présenter le sujet en oubliant complètement l'éthique, faisant attention uniquement aux valeurs quantitatives. Si tu écoutes le discours de ceux qui disent open source, tu verras la manque des questions éthiques dans ce discours et l'absence complète de l'idée que les programmes utilisateurs sont injustes. Que le pouvoir des développeurs sur les utilisateurs est injuste, il ne le mentionne jamais. Parce qu'il veut coopérer avec les développeurs, les vendeurs de logiciels utilisateurs. Donc il ne veut pas les critiquer, donc ils vont construire ce discours. Et les gens motivés par ce discours, par l'idée d'open source, ont développé des programmes libres utiles. Parce que l'utilité d'une contribution technique est indépendante de la philosophie derrière la contribution. Mais cette philosophie est faite pour. Quand la liberté est menacée, ce qui est souvent, pour la maintenir et pour la défendre. Mais pour la défendre, il faut la valoriser. Mais pour la valoriser, il faut comprendre le concept de la liberté. Et voici ce qui manque. Donc, quand il y a beaucoup d'utilisateurs d'un programme libre qui ne valorise pas la liberté dont ils disposent, ils sont achetés à la perte sur n'importe quel prétexte. Quelqu'un leur offre un programme utilisateur à chaque pour comme remplacement de ce programme libre, ils ne voient pas pourquoi le rejeter. Qui n'apprécie pas la liberté contraire. Donc pour établir une liberté durable, il ne suffit pas de donner en cadeau la liberté à tout le monde. Il faut les enseigner à valoriser la liberté pour la défendre après. Et voici la faute pour une chose. C'est pour ça que je ne participe jamais dans les activités qui portent le drapeau d'open source, uniquement les activités de logiciel libre. Parce que je veux que mon travail diffuse l'appréciation de la liberté. En même temps que n'importe quelle activité. Il y a trop à faire dans chão, que a gente está perto. Reflexão, luz a bom dos lados na frente do caixão, com as curiosas artistas ali também, e na área que você entender, não me conta a sua vida, mas eu vou continuar de todo o que é. Então, imagine les articles du logiciel libre à liberté de préférence qui peut continuer de deux manières à la fois. Bon, une autre menace à travers de l'eau-gageuse.
Oui, vous entendez.
Et j'ai fait une manifestation contre Dieu.
Offre aux écoles des copies gratuites.
seconda è lasciando voci o il ruolo tra di o attirei quanto demandò le cose le developer le cose attisci dans le projet de rendre dépendants des élèves en leur enseignant l'utilisation de ce programme indicateur qui après sa radiation qu'ils ne reçoivent pas d'offre de cooperation. Et ils travaillent peut-être pour les entreprises ne reçoivent pas d'offre de cooperation. L'école doit se souvenir de sa mission sociale et refuser le logiciel privateur, que ce soit gratuit ou pas. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation des meilleurs programmeurs. Parce qu'il y a des jeunes qui ont le talent de programmer, qui sont des programmeurs nés, et pour apprendre à écrire rien de code, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Mais uniquement le logiciel libre offre l'opportunité de lire beaucoup de code et grands programmes que nous utilisons. Et puis, ils doivent écrire beaucoup de code, c'est-à-dire écrire du code dans les grands programmes. Mais uniquement le logiciel libre leur offre l'opportunité d'écrire des changements, parce qu'au commencement, on n'est pas capable d'écrire tout un programme, tout un grand programme, il faut commencer par le petit, c'est-à-dire des petits changements dans des grands programmes déjà existants. C'est sûr que le logiciel libre offre cette opportunité. N'importe quelle école peut offrir aux programmeurs nés l'opportunité de maîtriser leur talent. Mais sinon, peut-être une école de logiciel libre. Mais la raison la plus profonde est pour l'éducation morale dans la citoyenneté. Parce que l'école doit enseigner pas seulement les faits et les méthodes, elle doit enseigner l'esprit de bonne volonté, c'est-à-dire la coutume d'aider les autres. Donc chaque classe doit avoir cette règle. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec le reste de la classe. Y compris le contenu du programme, pour le cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager des connaissances. N'importe quel programme incorpore des connaissances. Si le programme est privateur, elles sont des connaissances liées aux étudiants. Mais si le programme est libre, ces connaissances sont offertes aux étudiants. Donc, apporter un programme privateur à la classe n'est pas permis. Uniquement le logiciel libre, mais l'école va suivre sa propre règle. L'école va apporter uniquement le logiciel libre et partager des copies aux sources avec et des étudiants, bien sûr, avec tous les étudiants dans la classe. Bon, avec l'utilisation des services du réseau, il y a deux autres menaces. D'abord, la menace d'abuser des données et aussi la menace de prendre le contrôle de ton informatique. La première est assez connue. On sait maintenant que les services ont beaucoup de surveillance, mais ils demandent aussi beaucoup de données que l'utilisateur donne consciemment, mais dans tous les deux cas, le site peut abuser ces données, peut les montrer à quelqu'un d'autre. Et the shepherds, and they won't have heads up. How do we protect our duties that are so from the trap? Non limiti sapere a tutti gli esercizi per subire che le cose ma se ci hanno scritto più lì che le cose per vedere che tu vuoi e anche l'era adeguata in realtà sono chi ne so fa cosa di sé ma se c'è e va a vedere si le si forse è dei godenti di sé ma se c'è le si vede già di sé et si le sheep appartient à une entreprise américaine, c'est presque certain que le sheep abusera des données, parce que selon une loi, l'entreprise doit livrer même sans ordre de travail toutes les données qu'il possède sur toi à l'FBI. Alors, sans te le dire, donc, évidemment, tu ne dois jamais faire confiance à une entreprise américaine avec les données. L'autre menace est moins connue. Si tu utilises un service qui sert ton code informatique, tu en perds le contrôle. C'est comme utiliser un programme d'utilisateur. Et ce cas, j'appelle le logiciel comme service. C'est quand un site fait sur un programme approprié au résultat. Avec le logiciel comme service, l'utilisateur fait son code informatique. Pas en écoutant chaque type de programme avec les données qu'il a dans son ordinateur à ligne, mais en utilisant toutes les données pertinentes au serveur de catégorie qui fait son informatique et lui envoie le résultat ou agit directement pour lui. Et comme ça, qui a le contrôle de cette informatique? Pas l'utilisateur, c'est le propriétaire du service qui a le contrôle de comment se fait le logiciel de l'utilisateur. C'est le même résultat que d'avoir utilisé le programme privateur. Le même problème. Mais c'est encore pire, parce que un programme. Beaucoup de programmes privateurs contiennent des contraintes de surveillance qui transmettent des données après le serveur. Mais si l'utilisateur utilise le logiciel comme service, il doit envoyer toutes les données rapidement au serveur. Et c'est le même résultat. Le serveur possède ces données et qui sait avec après. Donc, mais il est encore pire. J'ai mentionné les portes dérobées que beaucoup de programmes contiennent. Il y a même les portes dérobées universelles par lesquelles quelqu'un a le pouvoir de changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur. Ni avec le logiciel comme service, le propriétaire du serveur peut à n'importe quel moment changer le logiciel dans le serveur et donc changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation. Le logiciel comme service est donc l'équivalent d'utiliser un programme privateur avec des contraintes de surveillance et une porte dérobée universelle, c'est-à-dire d'utiliser du malware. Il faut rejeter le logiciel comme service, comme il faut rejeter le logiciel privateur. Todo mismo, de los circunstancias, hace para este mundo. Si lo considero, pude ser aprobado del mundo, tres puntos ne font que présenter d'informations. Et si tu regardes cette information, tu n'es pas à faire son propre informatique, donc ce problème ne se pose pas. Mais si nous considérons les serveurs qui offrent des services matériels, matériels, la grande majorité font des services de communication qui ne font pas son propre informatique. Donc, ce sont très peu qui offrent de faire un propre informatique. Et ce service sont de logiciels comme service. Si tu peux imaginer d'avoir un programme qui fait la même informatique, fait la même chose que ce service, en ce sens, le service est du logiciel comme service. Et quand je dis par propre informatique, il s'agit de faire des computations avec les données que tu possèdes sans interaction avec les autres utilisateurs. Quand il s'agit d'interagir avec les autres, il ne s'agit plus de ta propre informatique, mais d'une informatique collective ou conjointe. Et c'est autre cas. Tu ne pourrais pas le faire dans ton ordinateur sans communiquer avec personne. Donc, il s'agit de l'informatique de quelques-uns ensemble. Tu ne peux pas pouvoir avoir le contrôle complet de cette informatique, mais elle ne t'appartient pas uniquement. C'est quand j'ai ta propre informatique que tu peux avoir complètement le contrôle d'elle. Et donc, dans ce cas, perdre ce contrôle est une injustice. Autre menace à notre liberté est le vote d'une. Il faut ne pas faire confiance aux ordinateurs dans les élections publiques. Parce que si les ordinateurs comptent les votes, comment vérifier qu'ils ont fonctionné correctement? C'est impossible. Il ne reste que les photos. Et si pendant l'élection, le programme fonctionne mal, peut-être délibérément, peut-être quelqu'un l'a changé pour faire des fraudes, comment le savoir? Et que même si des experts ont étudié d'avance le programme qui doit se tourner pendant l'élection, ils ont dit ce programme arrête de fonctionner correctement. Comment savoir si le programme dans l'ordinateur pendant l'élection était le même? Peut-être quelqu'un a pu installer une version modifiée le matin pour que ce candidat gagne et remplacé par la version correcte le soir. L'idée des systèmes électoraux pour le vote secret et que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement du système pour que les actions de tous les participants, sauf le voteur, peuvent être surveillés par des autres participants pour assurer que personne ne peut faire du fraude. Mais
Spécifiquement pour restreindre l'utilisateur,
le vidéo se transmet entre le processeur et le moniteur en format encrypté pour que l'utilisateur ne puisse pas afficher ce vidéo d'autre manière ni vers un enregistrement. Ils ont transcrit l'injustice, les menaces dans les ordinateurs. Et ils ont fait des conspirations pour interdire toute autre manière de le faire. Par exemple, avec les DVD, tous les lecteurs de DVD, dès le commencement, ont été parqués avec les mêmes menottes. Parce que la configuration DVD exigeait que chaque entreprise qui voulait appliquer des lecteurs s'adhère à la configuration et fabrique les lecteurs avec les mêmes notes selon les règles de la configuration, garde le secret pour que les autres ne puissent pas fabriquer les lecteurs de DVD. Mais enfin, quelques-uns ont découvert le format secret encrypté des DVD et ont créé un programme libre capable d'écouter le vidéo de DVD. Et enfin, il était possible d'afficher le vidéo de ton DVD sans le logiciel privateur. Les entreprises ne l'aimaient pas, donc ils ont acheté des lois pour censurer ce logiciel libre. D'abord aux États-Unis, mais plus tard aussi en Union européenne. Donc, beaucoup de pays actuellement pratiquent la censure du logiciel et ils censurent les programmes capables de rompre les menottes numériques, capables de nous libérer de l'injustice des contraintes que nous avions. Évidemment, ces États sont les ennemis de leur peuple. Ils obéissent aux entreprises, pas au peuple, ce n'est pas la démocratie. Mais ce ne suffisait pas. Ils sont allés plus loin encore. Ils ont éliminé le principe fondamental de la justice. Aucune punition sans procès. D'abord en France, avec l'Azopi, où il n'y a pas de vrai procès, l'utilisateur est condamné pour l'accusation d'avoir partagé par le réseau. Et puis en Angleterre, ils ont adopté une loi sans même l'accusation de procès. Et aux États-Unis, une loi serait inconstitutionnelle, donc Obama a arrangé un accord privé entre les commissions d'accès et les entreprises d'émission pour punir l'utilisateur informellement, sans justice. Mais au Japon, ils sont allés même plus loin. Au Japon, décharger une copie mal organisée est puni par 2 ans de prison. C'est ce qu'ils veulent nous imposer, évidemment. Ils veulent nous imposer partout. Et le feront si nous ne les vendrons pas. C'est donc la guerre contre le partage. Et ils disent qu'ils le font pour les artistes. Mais en même temps, ils abusent toujours des artistes, les mêmes artistes. Sauf les stars. L'estate in entra très bien. L'estate fa beaucoup d'argent, les autres artistes très bien. Mais l'estate c'est une excuse pour maintenir le système oppressif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, ce n'est pas par hasard que leur mesure pour continuer le partage sont draconiennes et cruelles. C'est nécessaire car le partager est bon et d'être la politique partagée est facile. Les gens partagent. Et comment leur faire arrêter de partager uniquement par des punitions très fortes et dures, comme 2 ans de prison. Et la dureté des punitions démontre l'injustice de leur motif. Partager est bon, il faut légaliser le partage, même le partage par Internet, de n'importe quelle œuvre publiée. Et quand je dis le partage, je veux dire utiliser de manière non commerciale des copies. Par exemple, les réseaux, terre à terre. Mais pas par régie commerciale, comme les régies commerciales, c'est autre chose. Mais les éditeurs disent, comme ça, tu voles l'argent aux artistes, mais c'est faux. C'est les éditeurs qui n'ont pas payé les artistes. Mais, et d'avoir apprécié une œuvre ne t'impose aucune dette envers personne. Si je marche, si je me promène dans la rue et j'écoute une chanson de la radio de quelqu'un, est-ce que j'ai une dette aux musiciens? Évidemment pas. Mais il est utile d'appuyer les artistes. Si nous apprécions les arts, nous pouvons avoir l'art. Il est très utile de fournir de l'argent aux artistes, pour qu'il n'ait pas besoin de travailler d'autre manière. Donc je suis complètement contre le but de rémunérer ou compenser les artistes. Mais je suis pour appuyer subventionner les artistes. Et comment le faire? J'ai proposé, si nous réalisons le partage, ce ne changera pas les autres pratiques. Ils pourraient toujours vendre des copies, des concerts et des présentations, d'une certaine manière, et vendre des billets d'entrée. Je ne propose pas d'éliminer toutes les pratiques qui sont déjà, sinon de légaliser le partage de copies. Mais, et d'interdire les mêmes numériques. Mais, j'ai proposé 2 systèmes nouveaux pour appuyer les artistes. Un système fonctionne par un impôt ou par l'argent public. Ah, c'est plus correct. Parce que l'argent peut venir du budget général ou peut venir de l'impôt spécial sur quelque chose relationné plus ou moins avec l'informatique, peut-être, aux clients des services d'accès Internet, peut-être. Mais une manière qui serait de l'argent public pour repartir entre les artistes. Mais combien pour chaque artiste? Le système actuel prétend de payer chaque artiste selon son succès. Donc, je propose de garder ce principe. Nous pouvons mesurer le succès de chaque artiste par un système de sondage, ou par compter la fréquence de partager leurs œuvres dans leur réseau. Et comme ça, nous aurons une somme de succès pour chaque artiste. Et puis, je propose d'utiliser la machine publique de son succès pour déterminer sa quantité de gagnants. Avec la machine publique, pardon, la machine publique de 8 et 2, donc si l'artiste A a 8 fois le succès de B, A recevrait seulement 2 fois l'argent de B. Et si A a 1000 fois le succès de B, la machine publique de 1000 et 10, donc A recevrait 10 fois l'argent de B. Le résultat de la diffusion de la machine publique est de transférer la plupart de l'argent des stars aux artistes de succès moyen. Chaque star recevrait toujours plus d'argent que chaque star. Mais pas astronomiquement plus. Seulement un peu plus, parce que la machine publique a 7 fois. Donc, comme ça, nous pouvons appuyer de manière adéquate plus d'artistes, beaucoup plus que le système actuel. Ce système fonctionnerait mieux que le système actuel pour le vrai but d'appuyer les artistes qui ont du succès. L'autre système que j'ai proposé fonctionne avec les paiements volontaires. Il faut établir le système de petits paiements anonymes, c'est-à-dire pour solliciter qu'il sera anonyme, pour celui qui reçoit un renseignement anonyme, parce qu'il doit payer leurs impôts. Mais ce qui est important est que ce soit anonyme pour celui qui paye, parce que celui qui reçoit, c'est un artiste qui a publié une œuvre. Et tout le monde peut voir quelles œuvres il a publiées. Pas le secret, ça va. Mais qui a publié et veut payer l'œuvre n'est pas forcément publié. Donc on doit pouvoir le faire à l'anonymat. Mais je propose de mettre dans chaque produit pour lire. Présenter une œuvre, un bouton pour envoyer une petite somme, peut-être 1 euro en Belgique, aux artistes de l'œuvre de ces jours, ou de la dernière œuvre jouée. Et pourquoi quand tu joues une œuvre dans l'ordinateur, pourquoi est-ce que tu n'envoies pas de l'euro? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de l'euro à envoyer? Non, c'est parce que ce serait trop difficile. Donc je propose d'enlever l'obstacle. S'il était complètement facile d'envoyer de l'euro, tu le feras de temps en temps, peut-être une fois par jour. Mais pas tout le monde le fera, parce qu'il y a des pauvres qui n'ont pas l'argent pour l'envoyer aux artistes. Et c'est bon, les pauvres ne doivent pas l'envoyer, parce qu'il n'y a pas besoin de forcer les pauvres à payer. Il y a assez de gens pas pauvres et disposés à payer. Donc, je crois que ce système fonctionnerait bien, parce qu'il y a déjà des musiciens qui reçoivent ces garçons par des dons volontaires qui sollicitent dans leur site web. Naturellement, ils sollicitent des dons plus grands. Parce que, avec les systèmes actuels, les paiements, donner 1 euro est pour. ne compisco che de quand cinquante euros ou 1000 euros et les dons sont peu mais leur valeur est assez grande. Mais si tout le monde peut facilement participer, peut facilement donner un petit peu, les artistes seraient beaucoup plus. Ces deux systèmes d'appuyer les artistes sont compatibles avec le partage. Donc nous pouvons légaliser le partage et établir un de ces systèmes qui a aussi des combinaisons, il y a beaucoup de variations possibles. Mais avec un tel système, nous pouvons augmenter notre appui aux artistes et légaliser le partage et mettre fin à la guerre contre le partage. Mais la dernière menace est l'absence du droit de faire à ce que nous faisons dans le monde virtuel. Ce que tu fais dans le monde virtuel, tu n'as pas le droit de faire. Tu peux le faire si des entreprises le permettent. Et si elle ne veut pas le permettre, tu ne peux plus le faire. Si tu veux diffuser une opinion dans le monde physique, tu peux imprimer des papiers et te promener dans la rue en copie aux gens qui passent. Et tu n'as pas besoin de l'aide d'une entreprise pour le faire, tu as le droit de le faire. Et si tu veux faire la même chose dans le monde virtuel, tu as besoin de la coopération d'un fournisseur d'accès Internet, d'un registre de nom de domaine et probablement d'une entreprise hosting, un hébergeur de site. Et ces entreprises peuvent te coûter le service quand ils veulent, s'ils n'aiment pas ce que tu dis, ou si quelqu'un les menace. Si tu veux solliciter des donations pour la cause, dans la rue, tu peux promener avec une boîte. Mais dans l'Internet, tu as besoin d'un service de paiement. Et ces services peuvent te coûter leur service quand ils veulent, presque arbitrairement. Nous l'avons vu quand le gouvernement des États-Unis a attaqué WikiLeaks. Il fait un travail héroïque d'exposer les injustices des États. Mais quand il a exposé les injustices des États-Unis, le gouvernement a essayé d'éliminer WikiLeaks, de le chasser de l'Internet, mais pas par procès légaux, mais plutôt par menacer toutes les entreprises qui lui fournissaient des services, comme par exemple les registres de nom de domaine, les services d'hébergement et les entreprises de paiement ont coupé le service sans procès, parce qu'ils voulaient coupé le service sans procès. Si tu l'oses, pour diffuser les papiers et recevoir l'argent, tu signes un contrat. Le propriétaire ne peut pas te chasser sans procès. Il devrait avoir des raisons adéquates pour gagner le procès. Si tu payes le loyer et tu n'abîmes pas les murs, il ne peut pas te chasser. Si tu as, normalement, si tu as une ligne de téléphone et tu payes les factures, l'entreprise ne peut pas te couper le service. que por quem havia de menos voz, como o nome de Atreia. Depois, mulher era a terra, a terceira e a participação, só na colocação no final do país, com pressão a nascer, por poder nascer isso. E também que, segundo a guarda do TN, diz a que nesta parte, se qual isoterra se dota no nome com o TN, que são de mesmo resolvo, ne peut pas couper arbitrairement le service. Et peut-être en Islande, essayer de faire un procès, parce qu'il a offert de recevoir de l'argent pour l'utilis, et les réseaux ont coupé son service de paiement de marchand, et maintenant il fait le demande, mais s'il gagne le procès, je ne sais pas s'il pourra avoir de nouveau le service ou seulement être compensé pour cette terre qu'il a souffert parce que c'est plus long que le travail de Donc il faut établir le droit au service important comme numérique. Maintenant, pour l'information davantage sur le logiciel libre, tu peux regarder le site GNU.org, c'est GNU.org. Il y a aussi le Free Software Foundation, qui a le site FFF.org, et tu peux s'adresser à l'FFF par le site, ou si tu veux payer pour le compte. Annual dues for an organization.
Une cotisation annuelle.
Ah, si tu veux payer la cotisation annuelle en visite, tu peux le faire avec vous. Tu peux écrire des données sur une carte et tu seras membre de l'ESO. Il y a aussi la Free Software Foundation Europe, dont le site s'appelle FSF.org, et tu peux aussi te faire membre de cette organisation. Maintenant, je veux prendre aux enchères ce petit loup à l'orage. Qui a besoin d'une famille? Si tu as accepté le loup, je peux dédicacer cette carte ou cette étiquette. Et si tu as mon show chez toi. Tu as besoin de nous pour mon show. Comme nous savons, nous avons un peu de guerre contre les champions. Nous pouvons accepter des paiements graves, des cartes de crédit. Il est capable de faire des achats par téléphone internationalement, ça fonctionnerait avec les réserves. Où en est-il? Et quand tu enchéris, quelle date de ajouter la main et crier le prix au père? Et je commence avec 20 euros, si je suis normal. Est-ce que j'ai 20 euros?
20?
Si. 20, donc j'ai 20 euros, est-ce que j'ai 25? J'ai 25, est-ce que j'ai 30?
50.
J'ai 30, est-ce que j'ai 30?
50.
Quoi? 50. J'ai 50, est-ce que j'ai 55? J'ai 50 euros, est-ce que j'ai 55? 5. 55? Est-ce que j'ai 60? Combien? J'ai 60, est-ce que j'ai 65? Je crois qu'on dit, est-ce que j'ai, je crois qu'on dit, je crois qu'on gagne. Je crois qu'on dit, est-ce que j'ai, je crois qu'on gagne. Je crois qu'on gagne.
Thank you. Et Dieu t'a fini que tu as ta grâce qui a été amenée pour vous, de gagner toutes choses, sort de chez la terreur, et de ne pas accepter de délicater une copine de la spécie. Il y a d'autres matériels que Richard a apporté, du matériel qui a été mis à disposition par l'ATIL, l'association anthropologique des utilisateurs.
Pour parler lentement et fort
if we don't sit here, we don't start from the
If we want to sit, c'est la vie de l'époque, à venir, on va s'appliquer à un domaine tout à fait différent de la forme.
Que le programme soit disponible gratuitement n'est pas notre but. Și nous ont des utilisateurs pour cette des copies, quelqu'un mettra des copies à diffusion dans l'internet gratuitement. C'est le droit visuel chez le logiciel libre, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que dans la liberté de diffuser des copies exactes, il y a la liberté de donner des copies exactes. Et de vendre des copies exactes. Tu peux faire l'un ou l'autre comme tu veux, et si tu offres de vendre des copies, les gens peuvent payer ou pas. Tu ne fais pas, tu ne les donnes pas de copies. C'est ton droit. Donc, à l'année 85, je vendais des copies de Blue Image dans Bande Magnifique pour $150. Mais je mettais aussi une copie dans un serveur FTP pour le déchargement gratuit. Donc j'utilisais les deux méthodes de distribuer les copies en parallèle.
Esse turma vencedor, esse turma
vencedor. You see, this is when the government has been programmed, they have to interact, so self-acting and self-acting program is not possible. Mais, je te fixe l'attention insuffisante au danger du réchauffement global, qui risque d'être la civilisation et la plupart des espèces.
Imaginez la ligne de la littérature que vous êtes en train de faire venir et vous avez choisi une tête africaine.
Et c'est passé que son secondaire j'ai choisi le mot gnou qui a été signé dans beaucoup de jeux de mots.
Ah oui, effectivement, le mot on utilise pour le contenu, disons, et la image.
La dernière fois,
alors,
j'ai dit, vous pouvez appeler de l'être
au poste. Au poste, croyez-nous, c'est un autre vibrateur.
C'est vert.
Voilà. Et c'est un animal qui porte le nom.
C'est
vert. Et pourquoi je crois parce que. Il y a eu des grands politiques, des grands demandeurs qui ont lutté pour la vie, pour la vie, des questions de ce type. Vous n'avez pas porté le nom, c'est une
autre tradition. Dans le cas de développer un système en changeant compatible avec d'autres systèmes informatiques et de reconnaître d'autres systèmes avec un acronyme recherché. Par exemple, à l'année 76, j'ai écrit le premier éditeur humain. Après, il avait 30 intentions humaines. Et il avait déjà fait quelque chose humain. Il avait aussi Fine. Fine, vous voulez dire Fine is not humain. Il y avait aussi Shine, pour Shine is not human. Et Aina, pour Aina is not human. Et Minch, pour Minch is not complete human. Et la deuxième version de Aina s'appelait Try, pour Try was Aina initially. Donc je cherchais. The natural technology for something is not unit. Mais aucune combinaison, aucune telle combinaison de caractères n'est un mot. Et sans être un mot, sans autre signification, il n'est pas un jeu de mots. Sur terre, donc, j'avais l'idée de faire une contraction pour éliminer la foule, cette technique. Et donc, je pourrais avoir quelque chose et une. Et j'ai essayé tous les lettres. Ani, Gnou, 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 Gnou. Mais Gnou est le mot. Gnou est le mot le plus chargé du mot de la langue anglaise parce qu'il s'utilise dans beaucoup de jeux de mots. Donc, j'avais résolu le problème. Donc, je n'ai pas choisi ce mot pour animal, mais plutôt pour s'utiliser dans beaucoup de jeux de mots.
Je vous remercie.
aí foi a lei de porque foram dias já
Les
de distância por ele, de onde ele quer amar você, e não está só acordando para esse rio. Então, depois de gente que são a favor de poder, ou de gente se custam para ver como não para o céu. Ele não para o céu. Ele não tem parte de ver com seu nome e se sente a poder. E são a questão de você. Então, você comprende que se propôs da analogia entre o programa e a sinfonia. Por causa dessa analogia, quer a sinfonia é aussi uma obra assez grande, assez compliquée dans ses détails, qui implante un champ beaucoup d'idées musicales. Mais pour écrire une bonne sinfonie, il ne suffit pas de choisir des idées, il faut les implémenter ensemble et de faire de manière harmonieuse. Voici ce qui est difficile. Voici ce que je ne sais pas faire. Donc, pour écrire une bonne symphonie, il faut choisir beaucoup d'idées musicales et les implémenter par les autres. Et de la même manière, pour écrire un bon programme, il faut choisir des idées mathématiques et les implémenter ensemble en écrivant du code. Ça, c'est ça des pères. Écrire un dramatique, je ne savais pas, c'est pas le salon. Mais je reconnais que c'est une table, que c'est quelque chose difficile à faire. Donc, imagine que dans le 18e siècle, il y avait eu en Europe la volonté de promouvoir le progrès de la musique symphonique par un système de brevets sur les idées musicales. Que n'importe quelle idée musicale ne peut être brevetée de façon un motif ou quelque chose, en utilisation comme motif pour être brevetée. La forme de répétition de mouvement qui peut être brevetée, du fermier, d'accord, qui peut être brevetée, l'utilisation de quelques instruments sont seuls pour les plus autorités. Le motif rythmique pour les plus autorités. N'importe quelle idée musicale expressable par la parole pour les plus autorités. Et puis, imagine que chez l'année 1800, et tu es dépourvu et tu veux écrire une symphonie. Ce serait difficile d'écrire sans avoir un procès que de l'écrire bien. Et je suppose que tu serais plein de cette loi et les démangeurs des procès auraient dit par dépourvu. Tu es jaloux parce que nous aurons eu ces idées avant toi. Donc, va inventer d'autres idées. Et ne va ne plains pas nos données. Dès qu'on est considéré un des grands compositeurs, parce qu'il a eu beaucoup d'idées nouvelles, et parce qu'il savait les les employés bien. C'est-à-dire quelques peu d'idées nouvelles en combinaison avec beaucoup d'idées connues. C'est comme ça que les nouvelles idées chères en combinaison avec beaucoup d'idées connues. Mais le système de projet qui a été de combiner ces idées nouvelles avec des idées connues. Et comme ça, il n'y aura a ter a possibilidade de viver a castigo que aconteceu de viver o velho para mim. Ele tem que de maneira eficaz e chega a reclamar com ele.
Pour faire ce
tem um chato aqui no meio.
Pour la médecine. dollars a year.